Je viens de passer un moment délicieux avec Augustin Trapenard qui présente l'émission Boomerang qui était sur le grand journal sur Canal. Là, il est sur France Inter. Et voilà, c'est un gars qui est passionné, qui est passionnant, qui a une voix incroyable, qui est captivant. Et lorsque j'ai découvert son émission, qui a pourtant quelques années, j'ai découvert l'été dernier, j'ai très rapidement eu envie de l'interviewer parce que... Pourquoi ? Parce que tu sens en fait la passion, Mia, tu la sens la passion dans son discours, dans sa voix, dans son intonation. Tu sens que c'est un gars qui transpire l'amour de ce qu'il fait et qui a envie de le transmettre le plus largement possible, je trouve ça super. Et pouvoir rencontrer des gens comme ça avec mon petit toutou, ça fait partie de certains rêves qu'on peut accomplir à Paris. Comment je m'y suis pris, c'est très simple. Je lui ai envoyé une vidéo le week-end dernier via Instagram où je lui confiais que j'avais très envie de le rencontrer, que c'était un de mes rêves de l'année. Alors que c'était un de mes rêves tout court, mais d'avoir précisé que c'était de l'année, ça tombait bien. Il avait une dispo là en cette début de semaine et on a déjeuné ensemble. L'interview, mon téléphone déconnait, donc j'ai dû la filmer, bien que on n'aura pas les images, j'en extrairai que le son. Voilà, c'est comme ça. En attendant, je suis certain qu'il y a énormément de valeur à en tirer. Je voulais juste vous encourager à faire des rencontres comme ça, à aller les provoquer, à aller les chercher, et que ça pouvait être par mille autres moyens. J'aurais pu attendre 2 heures devant la maison de la radio matin et midi quand il en sort. J'aurais pu lui envoyer une lettre, j'aurais pu faire 1000 choses. Finalement, les réseaux sociaux ont du bon et ça fait du bien, enfin c'est utile parfois de s'en servir. Il m'a confié qu'il avait accepté l'interview parce que la demande avait été assez décalée, que je l'avais fait rire. Et alors qu'il est très sollicité, qu'il accepte rarement. Mais en parallèle de ça, j'ai déjà envoyé des lettres à d'autres personnes qui ne m'ont jamais répondu. Donc comme quoi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière. Il y a surtout, il y a aussi un timing, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Voilà, j'ai juste envie de vous donner envie, en tout cas, d'aller voir les gens qui vous inspirent parce qu'elles sont parfois plus accessibles qu'on ne le croit. En témoigne cette merveilleuse rencontre. Si toutefois elle vous plaît, inscrivez-vous. Je vous mets le lien juste en dessous pour recevoir les prochains podcasts. En attendant, je vous aime et je suis très heureux d'avoir fait cette interview. Bonne écoute.
Bon, merci Augustin d'avoir
c'est moi Max
d'avoir accepté cette interview. Je commençais à te dire qu'en fait j'ai découvert Boomerang cet été un peu par hasard. J'écoute des podcasts depuis 1 an et demi, je suis tombé sur le tien dans les recommandations. Ta voix est juste exceptionnelle, mais ça on doit te le dire très régulièrement. Ton ton est tellement singulier, il y a un truc particulier chez toi dans tes questions, et personnellement j'adore poser des questions, je l'ai toujours fait depuis que je suis petit. Je me suis dit, ce mec a une espèce de vocation là-dedans, j'ai envie de savoir pourquoi, comment et comment t'en es arrivé là. Et bref, ça va être un peu décousu, mais déjà, merci.
Déjà, c'est moi qui te remercie, et puis on a un point commun. Effectivement, la question pour moi, c'est central, c'est le plus beau point de ponctuation. Je me suis toujours beaucoup interrogé sur la ponctuation par mon travail. J'étais enseignant, chercheur, avant de faire ce métier,
okay.
Et notamment en littérature. Donc tu penses bien que la ponctuation, c'est un domaine qu'on interroge sans cesse quand on fait des analyses de texte. Alors je trouve qu'on est dans une époque du point final. Une époque où on a tendance à proposer des phrases définitives. Ou alors une époque de points de suspension, ce qui est presque encore pire. Comme si on attendait des autres qu'ils complètent en fait des phrases. Moi j'aime le point d'interrogation, j'aime la beauté de la question. Après il y a des milliards de questions et des façons de les poser. Mais ce qui m'intéresse, c'est effectivement cette grande ouverture du point d'interrogation en fait. Quand face à une question la plus ouverte possible, la réponse ne peut pas être oui ou non, mais la réponse implique une histoire qu'on nous raconte.
Ça commence fort. À quel moment tu as compris que c'était une sorte de vocation de poser des questions?
Non mais moi j'étais ce môme qui pose tout le temps des questions. Pourquoi?
On te demandait si c'était de la police
là? Non, pas de la police, mais j'étais ce môme dont
on m'a posé cette question.
Les parents. Ah c'est vrai?
Ah ouais, plusieurs fois.
Non, moi non. Bah, c'est-à-dire que ça fait vraiment partie de mon métier. Toi t'es encore un petit peu discrète.
Non, mais quand t'étais jeune, quand t'étais jeune. Enfant, admettons.
Et oh, que... je pense, ouais, ils ont dû me dire ça à un moment donné, mes parents, t'es de la police ou quoi. Oups.
Là, on a perdu le micro. Petite précision, on est dans un resto, il y aura un peu de bruit, il y a des plats qui vont arriver. Tout ça fait partie du folklore. Voilà.
Mais je suis ravi de déjeuner avec toi, moi.
Là, c'est adorable.
Ça me fait plaisir.
Donc, ouais, je posais des questions tout le temps. Tout le temps, des questions fermées, des questions ouvertes, des questions existentielles, des questions folles, des questions indiscrètes, beaucoup.
Qu'est-ce que tu ressens quand tu poses une question indiscrète?
une vraie curiosité. Ça part toujours, en tout cas, d'une curiosité honnête, sincère et pas du tout voyeuriste, jamais chez moi. Si je pose une question indiscrète, c'est parce que je pense que le sens de ce qui peut en ressortir, le sens de la réponse, apportera quelque chose au cours de l'interview. Parce qu'il faut, ce qu'il faut jamais oublier, Max, et je pense que tu es d'accord avec moi, c'est qu'une question ne va pas sans celle qui la précède et celle qui la suit. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a toujours tendance à sortir une question d'un contexte, là aussi. On est dans une époque hors contexte, sans cesse. Et je trouve ça assez magnifique, moi, de savoir qu'une question est précédée et suivie. Et qu'elle compose petit à petit un entretien, une rencontre. C'est ça qui fait la beauté de la rencontre.
Je commence à avoir quelques éléments de réponse du coup, parce que tu as cette question récurrente qui vient pendant tes interviews. C'est quoi, pour vous, une belle interview, Augustin Traquenard?
Tu m'appelles Traquenard déjà. J'ai envie de te dire qu'on ne me l'a jamais faite. Tu sais, en vrai, quand j'étais prof...
Gros lapsus, hein, jamais pensé ça.
Je vais te dire, mais ça me fait rire. Mais quand j'étais prof, on m'appelait toujours Monsieur Traquenard. Voilà. Je me disais, c'est terrible en fait. C'est épouvantable, c'est une malédiction. Quand je suis parti enseigner en Angleterre et aux États-Unis, ouais, je me disais c'est génial, on va plus m'appeler Monsieur Traquenard. Et en fait, dès le premier jour, on m'a appelé Mr. Trap, ce qui veut dire exactement la même chose, Max. Donc en fait, c'est une malédiction.
Mais on t'a suivi
comment ça, on m'a suivi? On a continué à m'appeler Monsieur Traquenard.
Attends, hein,
Monsieur
Piège, quoi. Ces enfoirés d'anglais, on fait la traduction.
Non, mais ça va, moi je suis en moitié anglais, je suis angliciste déjà, donc c'est pas les enfoirés.
Et du coup, selon toi, c'est quoi pour toi une bonne interview?
Une bonne interview, c'est une interview curieuse, mais par curiosité, j'entends vraiment les deux sens du mot. Un curieux, c'est comme ça que je le définis toujours, c'est quelqu'un qui est ouvert sur d'autres horizons, sur l'extérieur, mais c'est aussi quelqu'un d'étrange, de bizarre. Et je crois qu'une interview doit contenir cette double curiosité, quelque chose d'éminemment singulier, voire étrange, et quelque chose de toujours ouvert sur l'ailleurs, sur l'extérieur. Une bonne interview, ça enrichit. Et ça enrichit aussi celui qui pose les questions.
Absolument. Qu'est-ce que tu ressens, justement, quand tu as une Penélope Cruz en face de toi, un Pierce Brosnan ou autre star? Qu'est-ce que ça te procure au fond de tes tripes?
La vraie curiosité, déjà, de savoir d'où ils viennent, qui ils sont, et surtout ce qui va se produire, parce qu'une interview n'est jamais la même, effectivement, suivant la personne qui pose les questions. Une interview n'est jamais la même. C'est marrant parce que ce matin, j'avais une humoriste et je me posais justement la question en introduction de savoir ce qu'était une bonne interview et surtout à quoi ça tenait, une bonne interview. Et j'ai répondu tout de suite à rien. En fait, ça tient à rien. Ça tient en un trébuchement, un tremblement, quelque chose qu'on n'a pas prévu. Tu auras beau prévoir toutes les questions, toutes les transitions, le lancement d'un disque. Et je sais, si moi je fais de la radio, où je pense que le lancement d'un disque fait énormément dans la qualité d'une rencontre, aussi curieux que ça puisse paraître. Est-ce que tu t'es renseigné comme un fou sur ton invité, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il n'a pas fait? Au final, ça se passera jamais comme tu l'as prévu. Et c'est ça, toute la beauté et toute la vie de l'interview. Sans doute avais-je un pressentiment qu'on allait se rencontrer, qu'on allait parler de ça. Mais c'est vraiment ça, en fait. L'interview, je faisais une analogie, c'est comme un fil dont on sait qu'il va se casser. Et une fois qu'il s'est cassé, on le rattrape in extremis et on se met à le dérouler. Et souvent, il se recasse à nouveau, on le laisse filer. Et on doit le rattraper, on doit peut-être le raccommoder avec un fil d'une autre couleur et ça ressemble à rien. Du coup, et quelque part, une interview, ça doit ressembler à rien pour que ce soit beau. Les pires interviews, pour moi, sont celles qui se sont trop bien passées. J'en ai plein. Hein.
Ah ouais. T'entends quoi par trop bien passé?
Ben, celle, j'avais tout prévu.
Il y a ton assiette qui fume, Augustin, j'ai pas envie.
Mais tu vas m'entendre. Hein,
tu vas des slurps. Ton potage.
Ça va être sexy, ton interview. des bons petits slurps. Ouais.
À la tienne.
À la France. Pendant que Max boit un verre d'eau, de façon tout à fait guillerette. On peut prendre du vin, si tu veux.
Non, ça me va très bien. Et j'ai adoré déjà ton sourire quand je t'ai vu traverser la route là-bas.
Oui, je suis un peu trop gentil, moi je souris tout le temps.
Tu m'as fait un grand smile. Et non seulement j'ai de la chance, parce que c'était un petit rêve quelque part, au même titre que...
Calmons-nous.
Non, sans déconner. Au même titre que interviewer un jour Cédric Clapiche est un rêve au fond de moi. Mmh. Bah toi, c'est, ce rêve a germé.
Tu sais que Cédric Clapiche, je lui ai emprunté l'indicatif, le générique de mon émission.
Oui, mais bien sûr, j'ai reconnu, évidemment.
Tiré évidemment. De Castel Chinois.
Ouais, tout à fait. Avant, je crois bien, non?
Non, Castel Chinois. Vinci, le craquet du mythe.
Ok. Bon.
Tu permets, c'est mon indicatif.
Allez, va l'appétit. Quand je te posais la question, c'est quoi selon toi une bonne interview? Parfois, ce que je ressens pendant une interview, c'est une sorte de connivence, une sorte d'énergie, t'explique pas, comme un égrégore qui se forme, un truc. où t'accroches mentalement avec la personne et je sais pas, il y a...
Oui, mais le danger avec la connivence, c'est que au final, si c'est que de la connivence, si c'est que de l'entre-soi, on finit par être tous les deux et oublier en fait le destinataire de l'interview. Toute la beauté de l'interview, c'est aussi qu'elle ne s'adresse pas qu'à la personne qui est en face de soi. Elle s'adresse aussi à tous ceux qui écoutent, qui lisent ou qui regardent. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours prendre en considération, prendre en compte. C'est pour ça que moi, j'évite la plupart du temps, et franchement, ça m'est arrivé, je crois, deux fois, d'interviewer pour mon métier, en 1200 émissions, quelqu'un que je connais trop bien. Parce que ça devient très compliqué en fait. Ce sont les interviews les plus difficiles en réalité. Ouais. Parce qu'on en vient à oublier la personne.
T'as le moins de recul peut-être.
La personne qui t'écoute quoi.
Je.
Non, c'est pas trop une question de recul, c'est plus une question de. Oui, c'est ça, de perdre les gens qui t'écoutent. Moi, je fais de la radio sur le service public et je dois jamais oublier en fait que j'ai une mission. Et que la mission de service public, c'est pas comme travailler sur Europe 1 ou sur RTL, travailler sur France Inter ou travailler sur France Bleu, sur France Info ou France Culture, ce que j'ai fait pendant longtemps, France Culture, c'est aussi répondre à une mission qui était donnée, à une mission qui est non pas d'élever, comme on peut le dire très souvent, ce sera affreusement prétentieux, mais de produire quand même du sens. Et moi, mon travail en tant qu'intervieweur, c'est quand même de produire du sens et de faire en sorte qu'en sortant de l'interview, on ait quand même appris quelque chose sur la personne que j'ai rencontrée. Sinon, ça sert à rien.
Comment tu fais du coup pour ne pas perdre les gens ?
Déjà, je prépare énormément, tout en sachant, je te le disais tout à l'heure, que ça va se casser à un moment donné. C'est là où se produira peut-être, si j'ai de la chance, le moment de radio. C'est dans cette cassure, dans ce trébuchement, je te disais, dans ce tremblement qui va se produire quelque chose. Mais il y aura quand même du sens, c'est-à-dire qu'il y a des moments, des points obligés dans l'interview. Je ne peux pas faire semblant, par exemple, que tout le monde connaît la personne que je rencontre, je dois la présenter. Je ne peux pas faire semblant que tout le monde connaît sa palette d'émotions. Par exemple, je reçois une humoriste ce matin, je sais qu'il y a un moment donné dans son spectacle, parce que je l'ai vu, et je sens que ça touche à quelque chose chez elle, qu'il va falloir que je fasse surgir cette émotion à un moment donné. Donc si tu veux, il y a des points obligés que je vais raccommoder petit à petit, les uns après les autres. Mais aussi, je crée les conditions d'un entretien agréable. Et ça, c'est beaucoup plus technique que ça ne semble.
Quel en secret fait,
je pense que toi, tu t'en es rendu compte. Si tu fais une discussion avec un pote comme ça, ça va pas être tout le temps très intéressant. Voilà, moi j'ai 40 minutes, il faut que ce soit intéressant tout le temps et que ça y ressemble. Et pour ça, je vais devoir techniquement ajuster mes questions, créer un rythme très particulier en alternant les questions ouvertes où là, la réponse se fait extrêmement grande et les réponses fermées où on peut répondre que par oui ou par non, simplement pour créer du rythme. Suivant les réponses de mon invité, je vais voir comment il se sent. S'il se sent très mal à l'aise, ben là, je vais multiplier les questions fermées. D'accord. Pour le mettre un peu plus à l'aise et après pour pouvoir l'ouvrir. Tout ça est une sorte de technique. Et puis, je vais essayer de varier les tonalités moi-même, quitte à jouer aussi. Il faut être un peu comédien, mais tu le sais, je le vois dans tes yeux.
Je te garantis qu'on est sur de l'authenticité.
On est sur de l'authenticité totale, mon cul ouais, avec son chien.
Et sous la gueule de Mia en plus.
Non, c'est pas mon genre. Hein. J'ai moi-même eu un chien jusqu'à très récemment et je sais à quel point ça peut éclairer ta vie.
On va y venir à Jean-François, évidemment.
J'ai pas prévu ça. On est des parties très techniques, mais j'avais pas prévu. Mais on y va.
T'écris tout, du coup? T'écris tes interviews de A à Z ou
Bien sûr. Je laisse énormément de place à l'improvisation. C'est-à-dire que je sais, surtout quand je l'écris, qu'à un moment donné, ça va casser. Et quelquefois, j'écris sur mon conducteur des slashes où je me dis, c'est un moment... où ça peut possiblement briser et il faut que je le saisisse ce moment. Si je le saisis pas, bah tant pis pour moi, ça sera pour le prochain.
Yes.
Donc j'écris beaucoup, mais je l'associe une grande place quand même à l'improvisation. C'est-à-dire que l'interview, c'est aussi de la réaction. La réaction aux réponses folles que peuvent me permettre mes invités. Et surtout les interviews d'artistes. Moi, je n'interviewe pas de politiques, d'experts ou de journalistes parce que je trouve qu'ils ont une parole complètement suturée, Max, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on parlait tout à l'heure de points finaux.
Ouais.
Voilà, je trouve que le journaliste, l'expert et le politique ont tendance à suturer comme des points de suture leur langage, à faire quelque chose d'extrêmement construit. On peut retrouver d'ailleurs sur leurs tweets au mot près et à la virgule près. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce que j'aime, c'est justement la parole folle de l'artiste, la parole complètement erratique. Ce moment où il peut possiblement dire n'importe quoi. Ça, il y a quelque chose de magnifique là-dedans, c'est-à-dire que tu contrôles plus rien en fait.
Ouais, c'est bon. Nice.
Il est perdu là.
Non, c'est que... j'ai des questions.
J'en ai plein des questions, je le vois.
Là. Ouais, j'en ai plein. Mais j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis. À quel moment, comment tu t'y prends, combien de temps ça te prend pour préparer... Là, on est un peu technique, mais ça m'intéresse, je pense que ça intéresse du monde qui t'écoute, c'est combien de temps ça te prend pour préparer une émission, comment tu t'y prends, c'est-à-dire à quel moment de la journée tu te sens le mieux pour la préparer. Et grosso modo, à quoi ça ressemble une journée de semaine de travail avec toi, quoi ?
Bon, bah, c'est assez compliqué parce que je travaille aussi à la télévision et puis je suis aussi j'ai deux émissions, maintenant trois, et où je suis aussi le parrain d'une association qui me tient vraiment à cœur, qui s'appelle Bibliothèque sans frontières, qui me fait voyager en France, en Europe et dans le monde entier. Donc en fait, j'ai un emploi du temps ultra chargé. Après, je me plains absolument pas, parce que ce sont des métiers où quand tu travailles, il faut le prendre, ce travail, parce qu'on sait que ça passe extrêmement vite et qu'il y a toujours un moment où il y a un plus jeune, plus beau, plus cool, plus smart qui prend ta place, et c'est normal. Il faut aussi savoir évoluer. Moi, j'ai de la chance, je travaille beaucoup. Comment te dire ? Je me réveille très tôt, vers 5h du matin.
Sachant que tu te couches très tard aussi, j'ai pas pu si voir tard que t'étais insomniaque.
Ouais, j'ai pu avoir des grandes crises d'insomnie, mais pour l'instant...
Ah oui, ça fait pas partie de ta personnalité.
Ça peut parfois. Pendant longtemps, je me suis dit que le monde appartenait vraiment à ceux qui dormaient pas, quoi. Parce que je voyais que j'avais beaucoup plus de temps que les autres, effectivement.
Donc, je me lève très tôt. À 5h30.
Ouais, c'est 5h. Ouais. J'écris mon billet du matin, ce qui va attaquer mon émission.
Direct au réveil.
Ouais. Ouais, souvent. Ouais, je me lave. Ouais, je me lave un peu quand même. Hein. Pas se laisser aller. Hein. Et puis quand j'avais mon chien, j'allais promener. Je me lavais. Tu veux que je te détaille ce que je me lave exactement ?
Et tu commences par quoi ? Les cheveux ?
Ouais, bah non, pas par les cheveux, j'en ai plus, mon pauvre ami.
Ça va.
Ça nous pend au nez. C'est la poudre que je mets dedans.
D'accord.
Et puis après, je reprends l'interview que j'ai écrit la veille. Entièrement. Alors il y a plusieurs versions de cette interview. Je la construis avec un journaliste qui est, avec qui je travaille de concert depuis maintenant 4 ans, alors que cette émission je l'ai depuis 6 ans. Et on travaille ensemble. Moi je travaille sur un squelette d'émission, lui reprend un petit peu, essaye de la nourrir un petit peu. Puis après c'est un gros dialogue entre tous les deux, où on l'écrit tous les deux. Et puis après moi je la reprends une dernière fois tout seul.
C'est-à-dire qu'il y a 4 échanges de mail, quoi.
Non, on se voit. Okay. On se voit, on travaille beaucoup ensemble. Bah, il travaille à la radio avec moi. Non, on travaille à la radio ensemble.
Okay.
Beaucoup. Et c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'une quotidienne, une émission quotidienne, ça se construit aussi collectivement. Je travaille avec une réalisatrice avec qui je fais des signes, en fait, tout simplement, qui construit tout l'habillage sonore de mon émission, qui change quand même à peu près tous les jours, suivant la tonalité que je veux donner à l'émission, suivant l'invité que j'ai, suivant la richesse aussi sonore qu'on peut avoir. Donc tout ça, c'est un gros travail. Je te dirais que je travaille toute la journée, en fait.
On lâche rien.
Non, ouais. Pas grand-chose.
Je sais que t'es auvergnat. Qu'est-ce que t'as gardé, tu penses, de ces racines profondes ?
Beaucoup. Un amour de la terre, des animaux, déjà, qui est absolument central chez moi, dans mon approche du monde. Une connexion, une vraie connexion avec ça. Je souffre beaucoup.
D'être à Paris ?
Ouais, surtout de pas avoir le temps d'y aller plus, ouais. En Auvergne, où mon père est.
Non, ce que j'entendais par d'être à Paris, c'est la nature, peut-être le manque de.
Oui, c'est vrai. Hein. En vrai, j'ai de la chance, je vois de l'eau. De chez moi, je vois la Seine.
Ah oui, sympa.
Donc j'ai quand même de la chance. Et des arbres aussi. Mais effectivement, c'est important pour moi. Mon père était éleveur de chevaux, il l'est toujours d'ailleurs. Il est aussi maire d'un petit village dans le Bourbonnais. Et puis c'est là où j'ai toutes mes racines, effectivement, puisque mes deux parents étaient auvergnats, sont auvergnats. Et même si je suis né à Paris, c'est le lieu où je me suis rendu pour les vacances, en week-end. À l'époque, on faisait 6 heures pour y aller, maintenant, on est 3h30.
Ouais. Tu dirais quoi à celui qui te pose la question, si t'es un peu rat, parce que l'auvergnat est connu pour faire gaffe à ses sous.
Mais tu sais, j'ai pas ce truc-là. Moi, j'ai un truc. D'ailleurs, tu peux même en témoigner, c'est moi qui t'invite aujourd'hui. Je suis
gâté, les gars.
Je suis super généreux. C'est vraiment ma plus grande qualité, je pense. J'ai plein de défauts. Hein. Je suis hystérique, colérique.
Mais c'est quoi cette image qui colle aux auvergnats ? D'être un sou est un sou. Mon père l'est, hein, donc c'est pour ça que ça vient pas de nulle part, sinon. Bah, pas rat, mais auvergnat.
Tu sais, c'est des gens de terre, déjà.
Ouais.
Je te donne un exemple. Mon père, par exemple, il n'a pas de carte bleue. Tu vois. Et quand il s'est agi d'acheter un appartement à Paris, quand j'étais un tout petit peu plus jeune, il m'a dit, mais quelle idée d'acheter un appartement à Paris, il faut acheter des terres. Il faut acheter du bois. Donc je pense que c'est surtout qu'on dépense notre argent de façon sans doute plus noble. Aujourd'hui, on fait n'importe quoi. Non. Mais moi, j'ai pas ce truc. Je suis assez généreux. Mais je suis même assez généreux dans la vie. C'est-à-dire que je parle beaucoup. J'aime énormément les gens, mais il le faut pour faire ce métier, tu le sais. Et je suis même trop généreux. Parfois, je me suis fait un peu avoir.
Bon. T'as un exemple ou t'as pas forcément envie de...
De me faire avoir ? Ouais. Oh, bah, tu sais, moi, je fais partie de ces gens dans une relation amoureuse.
Trop.
C'est moi qui rince.
Ah ouais, mais bon, une fois, deux fois, la troisième fois, il faut que ça soit équilibré quand même, non ? T'es pas du genre à tourner.
Non, je sais pas, je pense que ça fait partie aussi d'une forme d'insécurité. C'est-à-dire, tu le sais, les gens qui rincent tout le temps, c'est des gens qui pensent que c'est une façon pour eux...
Se faire aimer.
De se faire aimer, ouais, exactement. Je pense qu'il y a un petit peu de ça.
tu disais qu'aujourd'hui...
Ouais, ça va, hein, je gagne super bien ma vie, et du coup je peux me le permettre, c'est pas très très grave.
Génial, tu nous le diras après.
Non, tu... ah, on ne veut pas te dire combien je gagne, on s'en fout.
Donc. Non, on s'en fout un peu, mais j'avais une autre question, enfin, tournée différemment, reliée à ça, mais ça viendra peut-être plus tard. tu disais qu'aujourd'hui on dépense l'argent un peu à faire n'importe quoi. Je me demandais, moi, quel type de pote t'étais, parce que de l'extérieur... Tu dégages cette image de mec cool, de mec sympa.
Ça me fait plaisir, c'est ma journée là.
Non, sans déconner. Et je pense qu'en soirée, on doit bien se marrer avec toi, tout ça. Tu dois être un peu ce genre de mec, en plus t'es connu, qui est un peu comme le pot de miel qui attire toutes les gonzesses autour de lui, même si c'est pas forcément.
Ouais, moi, ce serait les garçons.
Ben, voilà. Mais comment, quel type d'ami tu te.
Ah, déjà, tu sais, en fait, je suis pas trop fêtard. Je pense qu'il y a une sorte de fantasme autour de Canal, parce que moi j'ai commencé vraiment. Enfin, en tout cas, c'est à ce moment-là où on a commencé à m'écouter et à me voir quand j'étais sur Canal+, au Grand Journal.
Ouais.
Où là, il y a quand même un énorme fantasme de les mecs sortent tous les soirs, font des soirées paillettes, le Festival de Cannes.
Alors que pas du tout.
Baten Koufen, comme on dit. mais en fait, pas trop, parce que moi, je travaille quand même comme un fou, si tu veux. Donc, j'ai pas trop le temps. Et je te cache pas que l'échec successif de mes relations amoureuses, moi, m'a fait reconsidérer quand même le temps. Une espèce de gestion du temps, c'est-à-dire que j'essaie quand même de passer le plus de temps avec la personne avec qui je suis. Donc non, en fait, on sort pas beaucoup.
Donc en fait, t'es comme tous mes potes, dès que t'es maqué, t'oublies tout le reste.
Ouais, je suis souvent maqué, moi.
Ok.
En fait.
T'as du mal à vivre tout seul?
Sans doute, ouais. Okay. Sans doute.
Interesting.
Ouais. Interesting. Je sais pas du coup ce que tu veux en compte. Tirer comme conclusion, j'aimerais bien savoir.
Il y aura des sous-titres. Nothing.
Ok. Psychanalyse, ce truc en fait.
Qu'est-ce que tu aurais dû interviewer aujourd'hui
Joni Mitchell, la chanteuse canadienne.
Ouais.
Déjà par toi. Joni Mitchell qui a écrit le plus bel album de tous les temps, qui est un album qui s'appelle Blue, dont j'ai une chanson tatouée sur mon bras. Qui est une chanson d'amour anthropophage qui s'appelle « A Case of You ».
Est-ce que tu peux nous en chanter un tout petit passage?
Non, je chante pas, je chante hyper mal.
Fredonner?
Non, mais c'est hyper dur, en plus c'est Joni Mitchell. J'ai trop de respect pour les artistes pour essayer de les imiter.
Bon.
C'est d'ailleurs assez important. Souvent aujourd'hui, quand on reçoit des artistes dans une émission, tu sais, c'est parce que soit ils sont c'est pour faire un peu paillette. Et c'est souvent pour leur poser des questions, à mon sens, qui sont des questions de promotion. Eux-mêmes, ça les saoule. L'auditeur ou le téléspectateur, ça le saoule. La personne qui pose les questions, ça le saoule aussi un peu. Je pense qu'il faut croire véritablement. C'est pas tant aimer les artistes, c'est croire véritablement dans le sens de leurs paroles. Moi, je peux te dire aujourd'hui que, honnêtement, la parole, mais même, je vais te dire, la parole de Céline Dion est pour moi beaucoup plus intéressante aujourd'hui que la parole de Castaner. Parce qu'en fait, si tu veux, cette parole totalement suturée, on en parlait tout à l'heure, totalement fermée du politique, ben, on la connaît déjà et surtout, elle est tellement verrouillée qu'elle ne fait pas sens. La parole folle, en revanche, de Céline Dion, notamment, mais je pense, apporte quelque chose au monde, si tu veux. Elle te fait réfléchir, elle peut te choquer, elle peut au contraire te faire rêver, elle peut t'émouvoir. Il se passe quelque chose, il y a de la vie dans ces entretiens.
Et parle-moi de cette chanteuse, pourquoi elle te fait autant kiffer?
Joni Mitchell, immense.
Et quel est ton plan, du coup, pour la rencontrer?
Ah, je pense qu'elle est un peu malade, mais elle a donné récemment une énorme interview à New York. Donc c'est un secret. J'ai déjà écrit une lettre, hein. J'ai pas eu de réponse.
Ah.
Mais donc ça, ce serait peut-être mon plan. Il faudrait que je le pousse un petit peu, ce plan-là. Après, c'est difficile hein, d'interviewer quelqu'un qu'on admire fondamentalement. Moi, je me souviens quand j'ai interviewé pour Boomerang John Baez, qui connaît d'ailleurs Joni Mitchell. C'était terrible parce que j'avais une forme de tremblement dans la voix, d'excitation, de peur en fait de me rater et surtout d'immense frustration, ce que j'ai pas forcément avec les artistes que je reçois tous les jours, de frustration, de soudain, bah voilà, j'ai 40 minutes avec elle, qu'est-ce que je donnerais pour avoir 2 heures? C'est quand même quelqu'un qui a
percé.
C'était tes débuts? Bah, mes débuts dans quoi? Dans la chanson? Non, c'était il y a 2 ans.
Et donc, oui, finalement, tu peux toujours avoir peur de ton invité, du moment
mais
que
pas
tu vas
peur,
passer.
Mais c'est ça, cette espèce de mélange de frustration, de stress quand même. C'est-à-dire que moi, je me pose jamais la question de savoir si l'invité va m'aimer ou pas m'aimer. En vrai, je m'en fous. C'est-à-dire, je m'en fous. Je suis pas là pour devenir pote avec mes invités, pour devenir ami, mais même pour avoir une quelconque accointance, pour revenir à ce dont on parlait au sujet de l'interview tout à l'heure. Loin de là. En fait, je suis là pour produire, pour les aider, pour être un catalyseur de sens, pour que l'auditeur qui écoute, ou le téléspectateur, ou le lecteur, quand il s'agit d'une interview de presse écrite, en ressortent avec quelque chose. Et donc, ça en fait une construction. Oui, donc j'ai peur, effectivement, de ne pas être à la hauteur et de ne pas faire surgir suffisamment de sens.
Et ça m'arrive. Ce jour-là, t'as la voix qui a tremblé clairement à l'antenne ?
Pas trop, parce que je suis un drôle de coco, quand même. Bon.
On m'étonne pas, ça. Hein ? Bah, figure-toi que j'ai également écrit deux lettres à Frédéric Lopez, qui ne m'a jamais répondu.
Il va répondre, non ?
Bah, Fredo, si tu nous écoutes. Moi, je suis pas certain. La dernière date d'il y a un an et demi.
Son émission avait quelque chose d'assez extraordinaire, je suis d'accord avec toi.
Ouais. Non, mais c'est
pour Rendez-vous en terre inconnue.
Rendez-vous en terre inconnue, notamment, ouais. La parenthèse inattendue que j'ai bien aimé aussi. Là, il a une émission en France.
Lui, c'est un vrai créateur d'émissions, c'est quelqu'un qui m'intéresse. Il n'y a plus assez de création aujourd'hui. Et ce qui m'intéresse justement avec son travail, c'est que c'est quelqu'un qui crée, qui produit et qui crée des moments de télévision. Et je crois que son concept, il a été repris.
Il me semble que justement qu'il ne l'a pas vendu. Il a refusé de le vendre pour ne pas envahir l'espèce de communauté dans lesquelles il va à l'autre bout du monde, quoi. Ce qui est plutôt.
Non, mais ce sont des très belles émissions.
Ouais.
Frédéric, si tu nous écoutes, va chez Max, c'est sympa. On déjeune.
On déjeune bien. Où est-ce que tu trouves le temps d'autant lire ? À quel moment tu te dis maintenant c'est mon temps de lecture, je le prends ? Parce que finalement, un temps de lecture, soit tu te l'imposes, soit tu laisses la vie te manger et jamais tu t'arrêtes pour lire.
Pas quand c'est ton métier. Moi, c'est mon métier, j'ai une émission de littérature pour Canal Plus qui s'appelle 21 cm qui fait que je lis tout le temps l'œuvre complète de l'auteur que je m'apprête à interviewer. Je reçois un ou deux écrivains par semaine dans Boomerang. Donc c'est très important pour moi de lire, c'est mon métier.
À quel moment, c'est quoi ta routine ?
L'après-midi. L'après-midi, souvent, je lis. Je lis 2 heures, 3 heures l'après-midi minimum.
Dans ton salon ?
Dans mon salon, dans ma baignoire, beaucoup, dans mon lit.
Chez toi,
je peux lire à la terrasse d'un café. Ouais, souvent chez moi, j'ai besoin quand même d'être seul. Ça, c'est important. J'ai besoin d'être seul. Et dans ces moments-là, je mets mon portable loin. Ce sont des temps qui sont extrêmement importants pour moi. Ce sont des temps longs. Aujourd'hui, il n'y a plus de temps long. Aujourd'hui, tout va tellement très vite. On est ferré à son téléphone portable, au moindre tweet qui arrive, à l'urgence, à l'effervescence du monde. Le temps de lecture, c'est quelque chose d'extraordinaire quand on y pense. Quand on a ce luxe-là, celui que j'ai, de prendre 2 heures, 3 heures pour s'enfermer avec soi-même, en fait, dans un livre, mais pas seulement avec soi-même, avec aussi un auteur, son intention, avec un texte qui vit, avec une communauté de lecteurs qui l'a lu auparavant, qui t'a peut-être conseillé. C'est extraordinaire.
C'est fabuleux.
Je crois, moi.
Et tu... Bon, y a plein de questions qui se chevauchent, mais
vas-y,
à ce moment-là, tu te dis quoi? Que t'es le mec le plus heureux d'avoir ce temps pour
moi,
toi?
Moi, je suis très heureux. Je suis très heureux dans mon métier. J'ai une chance inouïe.
Ouais.
Je la mesure tous les jours. Après, ça n'a pas toujours été le cas. Ce sont des métiers, quand tu commences, tu fais un petit truc ici et là, une pige. Petit à petit, ça se passe bien. Alors, on te propose de rentrer dans cette rédaction. Puis un jour, on te propose une émission. Puis un jour, t'es recruté, tu sais pas pourquoi, à la télévision. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Ça a changé ma vie du jour au lendemain.
Comment t'es arrivé justement au petit journal ?
Au grand journal, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je travaillais sur France Culture et sur France 24, qui est une chaîne de télévision franco-anglaise, où je courais d'un plateau à l'autre pour faire ma chronique en anglais puis en français. Le producteur de l'émission, Renaud Levantin, du grand journal, qui est un grand producteur de télévision, m'avait vu. Et Michel Denisot écoutait France Culture. Michel Denisot est quelqu'un qui écoute beaucoup France Culture. Et il écoutait mon émission qui s'appelait Le Carnet d'Or. Et il avait demandé à me rencontrer. J'ai fait un premier entretien absolument catastrophique avec eux, où moi je pensais avoir cartonné.
Ouais.
Je suis sorti, je me souviens, j'appelle mon mec au téléphone, je lui dis c'est bon, c'est gagné, je vais passer à la télé, mais dans une chaîne de télé que les gens regardent vraiment, parce que France 24, on se demandait à l'époque si c'était pas une chaîne fictive. Ça nous faisait vraiment marrer. On commençait, on faisait notre truc, et puis on se disait, mais si ça se trouve, personne nous regarde, on est dans le Truman Show, tu vois.
Merci
et beaucoup. Donc là, et petit à petit, en fait, ils m'ont rappelé longtemps après. Sans doute parce qu'ils n'avaient trouvé personne et ils m'ont retesté.
C'est combien de temps longtemps
après ? 2 mois après.
Okay.
Et ils m'ont retesté et là ça s'est très bien passé. J'avais fait une chronique devant un public et là ça s'est très bien passé. Et puis un jour, j'étais, je me souviendrai toute ma vie, en Californie avec mon amoureux de l'époque. Et je reçois un coup de téléphone de Paris du coup.
Ouais.
Et on me dit, en fait c'est toi, tu vas être le chroniqueur littéraire du Grand Journal.
C'est bon.
Et je me souviens, j'étais avec mon mec, mais j'étais aussi avec des potes et ils m'ont dit, tu vas voir, quand... Profites-en bien, parce que dès le premier jour, à l'époque, le Grand Journal était regardé par 2 millions de personnes tous les soirs.
Ouais.
Ça va être fou, en fait. Les gens vont... les gars, vous avez fumé, en fait. Tout ça, c'est fictif, médiamétrie. Tout ce que tu veux, on s'en fout et tout ça. Ça marche pas vraiment. Puis en fait, effectivement, ça a changé.
T'as pris le Boulard, tu penses, ou pas du tout?
Non, mais moi, je pouvais pas prendre le Boulard. Enfin, peut-être que je l'ai pris. Hein. Il y a sûrement des gens qui me diront que je l'ai pris. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir pris. Je suis resté avec la même personne pendant 10 ans. J'ai gardé les mêmes potes, exactement les mêmes. J'ai pas l'impression du tout d'avoir vraiment changé. Mais la différence, c'est que si tu veux, moi, j'exerçais un métier qui était le mien. C'est-à-dire que j'étais un lecteur, j'étais critique de livres à l'époque. Et j'exerçais mon métier, ça changeait pas en grand-chose en réalité. Au contraire, j'ai pu être frustré, c'est-à-dire que je me rendais compte que la plupart des commentaires qui m'étaient faits étaient sur la couleur de ma chemise et la couleur de mes yeux, beaucoup plus que sur ce que je disais. Ça pouvait être un peu frustrant, tu vois. Elle est bonne cette blanquette de veau ou pas?
Ben c'est justement ce que j'allais te dire. Bonne continuation, Augustin.
Bonne continuation, j'espère qu'elle est bonne. Ouais, elle est très bonne cette blanquette de veau.
Figure-toi que ma sœur a appelé son fils Augustin et m'a...
J'ai eu peur, j'ai cru que tu m'avais dit ça allait me dire blanquette. Ça aurait été tout à
fait. L'appeler veau.
En mon honneur, j'espère. C'est le mec qui a un boulard pour le coup. C'est... Alors, pourquoi elle l'a appelé Augustin? Tiens, moi, ils m'ont appelé Augustin à cause du grand môle.
Et ben voilà, c'était la question que je me posais. Et pourquoi elle l'a appelé Augustin? Parce que selon elle, c'est lui qui a choisi son prénom. Et que elle l'a ressenti.
Cette famille en fait.
Ah, ça doit être ça.
Elle l'a ressenti. Non, cela dit, c'est vrai qu'on a des. Déjà, je pense qu'un prénom détermine tout à fait une destinée, qu'elle soit romanesque ou humaine. Et je pense qu'effectivement, il y a des prénoms qui nous vont pas. Toi, par exemple, t'as un prénom. Tu t'appelles comment? Maxime, Maximilien ou Max?
Maxence. Non, mais Maxime.
Ça te va pas.
On s'est écrit.
Non, ça te va pas.
Maxence, ça te va pas.
Ça te va pas. Moi, je t'aurais appelé. Julien, une bonne tête de Julien.
Philibert.
Non, non, Julien.
Okay. Non. Ouais, pourquoi pas.
Je vais t'appeler Julien maintenant.
Ouais, là, tu vois, je l'avais noté comme question, j'ai découvert ta chanson préférée.
C'était A Case
of You. Case of You de Johnny Mitchell. Ouais. Peux-tu nous faire un petit extrait?
C'est non, non, mais je sais que tu peux chanter. Je crois que je me suis pas...
En dehors de...
Renseigné avant l'interview quand même, à regarder quand tu fais chanter les gens là. Non, je suis pas chanteur. Mais...
Regardez. En dehors de Laurence Bloch, directrice de France Inter, quels sont justement tes mentors, les personnes qui t'ont vraiment inspiré?
Laure Adler, immense voix de la radio, avec qui j'ai commencé en fait, parce que mon premier travail à la radio, c'était stagiaire de Laure Adler, il y a 15 ans ou 18 ans, ou il y a, oula, il y a beaucoup plus, là, tu vois, on me rend compte, il y a 20 ans.
T'as quel âge?
40 ans.
Combien?
40 ans.
Ah ouais.
Sois pas insultant. Max, t'as quel âge toi?
Un petit jeune, j'ai 28.
Ah ouais. Et le chien, il a quel âge?
4.
Allez, vive la France.
Comme moi.
Non, mais. Ah ouais, 4 comme toi, 4 fois 7, 28.
28, ouais. Mais avec bientôt.
Je sais pas si c'est vrai, ça.
Il y a bientôt regardé dans le rétro.
Et donc, Laure Adler, qui est une immense journaliste, elle fait partie de ces journalistes qui ont presque rien devant elle. Elle écoute magnifiquement son invité. Elle pose des questions. Elle a élevé ça en art. C'est un modèle pour ça, pour moi. C'est quelqu'un qui était capable de dire à Marguerite Duras, droit dans les yeux, mais qui êtes-vous Marguerite Duras? Et Marguerite Duras lui va répondre, mais je ne sais pas qui je suis, moi, et vous qui vous êtes, Laure Adler. Oh. C'est des moments d'interview extraordinaires. Et puis c'est quelqu'un qui a su donner une certaine noblesse aussi à ce métier, je crois, par sa rigueur, par son intelligence du son. La radio, c'est du son avant tout. Et puis quand elle faisait de la télévision, le cercle de minuit, moi je me souviens, on la regardait quand on était plus jeune avec mes parents. Ouais, c'était un grand modèle. Pascal Clark, qui m'a précédé dans le 9h de France Inter, c'était aussi un très beau modèle pour moi.
Et de finalement côtoyer ces gens-là qui étaient des modèles, des mentors finalement...
Pascal, je ne l'ai pas vraiment côtoyé parce que j'ai pris sa suite. Mais tu veux pas moi.
Tiens. Ah, il n'y a plus qu'un bout, comme on fait.
On leur demandera.
On le partage.
Non, on leur demandera.
Il rompit le temps.
Et puis j'ai l'impression que Maya a vraiment envie d'avoir...
Mia.
Mia.
Ouais.
Moi je l'appelle Maya.
Si tu veux, elle a une tête
Julien.
De Maya.
Ouais, donc je pense effectivement Pascal Clark, Michel Denisot aussi qui m'a appris à faire court. C'est quelqu'un qui savait lancer un sujet de façon extrêmement courte, la précision, la grande économie de langage. Moi c'est ce que j'essaye de faire aussi dans mes questions. Denisot qui est pour moi un mentor, c'est sûr, parce qu'effectivement il m'a appris à faire court. C'est quelqu'un qui a une immense précision, une immense rigueur. La droite au but, il a cette économie de langage que je trouve extrêmement belle. Et on dit souvent que mes questions sont longues, mais en fait, quand on écoute vraiment les interviews, elles sont assez courtes. C'est-à-dire que je peux souvent, c'est quoi un corps pour vous? Qu'est-ce que c'est? Tu vois, c'est des questions courtes.
C'est des gens qui restent dans ta vie, ces mentors?
Ouais.
Qui continuent de t'accompagner, que tu sollicites? Ouais.
Michel, je l'ai parfois au téléphone, effectivement, on a une très grande bienveillance. vis-à-vis de moi. On m'a remis un prix de l'interview l'année dernière et je les ai tous invités.
Est-ce que t'as toujours peur du regard des autres, savoir ce qu'on va penser de toi ?
Pendant très longtemps. Je pense même qu'on ne fait pas ce métier par hasard. Avoir 18 caméras sur soi braquées, c'est pas normal. Et c'est quelque chose dont il faut toujours se rappeler. Ça renvoie à une névrose obsessionnelle. L'envie d'être aimé, d'être regardé, c'est une certitude. Après, l'expérience du Grand Journal a quand même profondément changé les choses. C'est-à-dire que quand on commente sans cesse tes moindres faits et gestes, la moindre virgule de ton travail, tu as l'habitude, si tu veux, d'être quand même regardé, jugé. Et c'est quelque chose auquel on doit s'habituer. Ça fait partie de ce métier que de savoir s'habituer à ça. Sinon, on devient fou, vraiment fou. Parce qu'à tout moment, dans une émission qui a une grosse audience, moi c'est le cas par exemple à la radio de Boomerang, on est jugé, commenté, et c'est normal. Tout le monde écoute, tout le monde a un point de vue, tout le monde a un goût, tout le monde a le droit de l'exprimer.
Quand tu prépares aujourd'hui tes émissions, dans un coin de ta tête, tu te dis, est-ce que cette question va plaire, est-ce que ça va... En quoi le regard des autres t'impacte aujourd'hui ?
Non, certainement pas quand je prépare mon interview, ça j'arrive à me délier complètement. En revanche, pendant que je fais l'interview, je pense souvent à la réaction de l'auditeur, parce qu'encore une fois, je ne m'adresse pas qu'à une seule personne. C'est toute la grâce de l'interview. On s'adresse à une personne et 1 million, 2 millions, 4, 8.
C'est quoi ton record justement ?
Je ne sais pas. Tu sais, l'audience de la radio, c'est très compliqué à mesurer. On la mesure tous les 3 mois. Et c'est quelque chose d'extrêmement vague. On dit aujourd'hui, moi c'est ce qu'on me dit, que l'émission est écoutée par plus d'1,5 million de personnes tous les jours.
C'est surréaliste si tu t'arrêtes un peu sur le...
Non, parce que c'est pas moi. C'est le temps de la radio, c'est le 9h de France Inter, la chaîne nationale. Et à cette heure-là, les gens écoutent la radio encore, les gens sont branchés sur la radio. Moi, j'ai été élevé à ça, tu sais. Tu savais exactement. Non, à Paris. L'Auvergne, j'y allais en week-end ou en vacances.
Ah, t'as pas grandi là-bas ?
J'ai jamais grandi là-bas, non. D'accord. J'ai jamais habité là-bas autrement que...
Okay.
Alors, un jour, j'espère habiter là-bas. C'est un de mes plus grands rêves.
Eh bien, justement, on y vient. Tu disais dans une interview que... C'était ta psy qui te demandait de rêver,
ouais,
consciemment, de faire l'effort de rêver. Mais justement, au fond de toi, à moyen, long terme, pas trop loin, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais de quoi tu rêves justement ?
Mais c'est ça. Je pense un jour, j'aimerais bien avoir un enfant et m'en occuper. Ça, j'aimerais bien, je crois. Mais moi, quand je dis m'en occuper, c'est vraiment m'en occuper. De toute façon, moi, quand je fais un truc, je le fais totalement à fond. Donc, je serais assez heureux de presque tout arrêter pour m'occuper à fond. En fait, je comprends très bien comment un enfant, c'est du fantasme parce que je n'en ai pas, hein, comment un enfant peut changer totalement ta vie. C'est-à-dire le fait que tu puisses dédier en fait ta vie à ça. Souvent, je vois énormément de regrets chez les gens qui m'entourent d'avoir pas assez de temps pour leur enfant. Moi, j'aimerais bien le prendre ce temps un jour.
Qu'est-ce que ça te procure quand on voit dans la rue courir ou quoi ? Enfin, quel sentiment l'enfant vraiment te fait naître chez toi, quoi ?
Mais c'est surtout les enfants que je connais, mes neveux, les enfants de mes amis. Mais une immense curiosité, on parlait de curiosité tout à l'heure, pour moi c'est la plus belle des qualités. Il y a quelque chose de magnifiquement étrange dans un enfant et de totalement ouvert sur l'infini, sur l'ailleurs, sur ce qui n'est pas compris. Cette question en fait, ça m'évoque des questions en fait, l'enfance. Peut-être des questions sur la mienne aussi, l'enfance.
Certainement, mais comme tu me charries que... C'est une psychanalyse, cette interview, je ne rentrerai pas là-dedans. T'as déjà ressenti le syndrome de l'imposteur ?
Pas vraiment, parce que mon métier, c'est un travail, c'est quelque chose qu'on oublie tout le temps. Quelquefois, quand on écoute une interview, on se dit « Oh là là, elle était tellement bien, c'était tellement fluide, c'est comme si c'était une discussion entre potes. » Sauf qu'en fait, et tu le sais, parce que t'en prépares des interviews, c'est un vrai métier. Et en fait, cette fluidité-là, on arrive à l'acquérir simplement quand on a préparé énormément un entretien. Donc en fait, ça repose quand même sur énormément de travail. Et je pense que le sentiment d'imposture, on l'a quand on ne travaille pas. Quand tout cela est extrêmement naturel. Or moi, ça, je n'y crois pas. Et c'est un sentiment que moi, je n'ai pas vraiment en moi parce que j'ai bossé toute ma vie comme un fou. Et que surtout, ma trajectoire s'est faite petit à petit. C'est-à-dire que je n'ai pas eu le 9h de France Inter tout de suite. Ça fait 15 ans que je fais ce métier. Tout est venu petit à petit. J'ai été quand même assez aidé en ça. J'ai pas eu d'explosion à un moment donné. Tout a été.
En regardant dans le rétro, tu dirais que tu as vraiment eu le retour de l'investissement en termes de travail que tu as pu.
Moi, c'est compliqué. Je peux pas m'empêcher, Max,
produire,
moi, de penser sans cesse au privilège. C'est quelque chose qui me hante, en fait, la question du privilège, qui ne me culpabilise absolument pas, mais qui me hante, c'est-à-dire sur laquelle je m'interroge tout le temps. Effectivement, c'est beaucoup plus facile pour moi, qui viens d'un milieu privilégié, qui ai eu une éducation privilégiée, entourée de livres, qui suis blanc, qui suis... de faire ce métier. C'est beaucoup plus simple, mais ça, il ne faut pas être Einstein pour s'en rendre compte. Donc, ce n'est pas tant un sentiment d'imposture, c'est plutôt, quelquefois, de s'interroger sur la chance qu'on a et de savoir toujours la déceler et de savoir toujours la dire. Et c'est vrai que ça, je me pose toujours la question. En fait, moi, quand j'ai commencé ce métier, c'était beaucoup plus facile.
Ah ouais ?
J'ai fait un Avoix Nu, qui est une émission mythique sur France Culture.
Je ne prends pas de riz, ça m'inquiète.
Non, je ne prends pas de riz, non.
Tu vas faire une hypoglycémiste après. fabuleux, merci beaucoup.
Justement, merci. Max s'inquiétait du fait qu'il n'y ait plus de pain.
Oh.
Vous voyez comme vous êtes.
Ouais, enfin, comme
très bien. Et laissez la vie parce qu'il s'inquiète aussi, j'ai l'impression, pour le riz. Vous pouvez tout laisser là.
Donc, je lui rapproche.
Bah, exactement. Alors, rapprochez-lui derrière.
Merci
beaucoup. Non, oui, voilà, c'est ça, toujours prendre conscience en fait de ses privilèges et s'interroger dessus. Moi, quand j'ai commencé la radio, c'était très simple. J'avais fait un stage et on m'a tout de suite proposé cette émission à Voix Nue, qui est une émission mythique de France Culture, 5 entretiens de 40 minutes. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. On ne propose plus ça à un stagiaire. Tu vois ?
Ou à de très rares occasions. Hein.
Voilà, c'est ça. Donc, je viens aussi d'une autre génération en ce sens-là.
À quel moment tu as une sorte de chance qui t'est tombée dessus ? Tu me dis là, franchement, les étoiles sont alignées, les planètes, tout ce que tu veux. Hein.
J'en ai eu plein. Plein. Le Grand Journal, c'était une chance, ils étaient de bonne humeur, ils m'ont bien aimé. Le magazine littéraire, quand j'étais encore plus jeune, j'ai commencé à travailler dans ce magazine, j'avais envoyé un papier, il leur a plu. Et... Moi, là où j'ai eu de la... Mais en fait, la chance, c'est une chose, et c'est toujours important de se souvenir qu'on en a eu. Mais en revanche, il ne faut pas se leurrer. Quand ça ne marche pas, quand on est mauvais, on nous renvoie. Surtout à l'époque à laquelle j'ai commencé ce métier. On était pigiste, le jour où on faisait un mauvais papier, on ne nous rappelait plus. Okay. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Et c'est pour ça, si tu veux, que la question de l'imposture, je me la pose. Mais je me rassure en me disant qu'on m'a toujours gardé. Alors après, pour être tout à fait franc avec toi, la question de l'imposture, je me la pose beaucoup plus que tu peux me le penser. Parce qu'en fait, mon sujet de thèse, de recherche, à l'université, à l'école normale supérieure, quand j'étais chercheur en littérature, c'était justement les postures et les impostures auctoriales, c'est-à-dire d'auteur, quand on est un écrivain, quand on est un auteur, quand on est publié. Et en fait, ce à quoi je m'intéressais, c'était le fait que dans tout moment public, c'est-à-dire que là, tous les deux, on ne peut pas nier qu'on a une posture. C'est-à-dire que toute expression publique suppose une posture. Et possiblement une imposture, puisque l'imposture, c'est juste le revers de la posture. L'imposture, ça reste une posture, ouais. Si tu veux.
Ouais.
Donc on en a tout le temps, on en fait tout le temps. Donc c'est des sentiments, si tu veux, pour moi, qui font partie de la vie, okay. Aussi. Mais au sens où tu l'entends, non, pas vraiment.
Très bien. Merci de ta franchise,
ouais.
De ton honnêteté d'être venu dessus. Est-ce que t'es plutôt du genre dragueur, Augustin ?
Voilà, je le suis quand je suis célibataire, c'est épouvantable. Ouais.
Ah.
Je drague, ouais. Carrément, je drague, je prends tout en main, moi.
Ah ouais ?
Ah, je drague. Ouais.
Mais c'est ça qui m'interpelle justement, parce que sur mon blog, j'ai envie de mettre en avant la rencontre plutôt que le fait de passer par des réseaux, des applis, des choses comme ça. Vraiment,
je suis comme
tu vois,
toi.
L'échange.
Mmh.
Dans quelle mesure, toi, tu dragues ? C'est-à-dire, comment tu fais finalement ? Comment
je vais te dire, je suis obligé, parce que pour moi, la rencontre amoureuse, ça passe par les yeux, ça passe pour le regard. J'ai l'impression de vivre dans une époque où on ne se regarde plus, où on est rivé sur un écran. Et quand même on se regarde amoureusement ou sexuellement pour la première fois, c'est par le prisme d'une application, donc par le prisme d'une photo, donc par un filtre en fait. Et un filtre qui est totalement faux. Combien de fois on a vu une photo qui ressemble absolument pas à la personne qu'on va s'apprêter à rencontrer ? Mais tout le monde l'a vécu, ça.
Donc t'as eu ta période
non, jamais.
Application de rencontre.
Non, jamais. Mais bon, j'ai déjà vu des photos par des amis qui me montraient des photos. Et après, quand je rencontrais la personne, j'étais choqué.
Ouais.
Mais c'est pas grave d'ailleurs, mais simplement ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut... Enfin moi, je suis séduit et amoureux des yeux d'une personne, de sa façon de parler, de ses trébuchements, et tout ça, ça se voit pas sur un réseau social ou sur une application.
Spiritualité, dev perso, ça t'évoque quoi ? Ça te fait penser à quoi ?
La spiritualité ?
Et le dev personnel, le développement personnel dans les grandes lignes.
Bah, en tout cas, ce qui est certain, c'est que la spiritualité a pu être une forme de développement personnel pour beaucoup. Moi, j'ai grandi dans une famille catholique J'étais pas vraiment un enfant de cœur, je l'ai jamais vraiment été. Mais de façon assez intéressante, je pense qu'il y a un lieu où je me sens bien, c'est l'église. Et je vais te dire pourquoi, à cause du parfum de l'église. Quand je vais dans une église, et ça m'arrive souvent quand je suis en vacances, de passer dans les villages et de m'arrêter d'avoir la campagne. Et je m'arrête dans une église, alors que je ne suis pas vraiment pratiquant, je ressens en fait un truc tout bête, c'est que ce parfum de la vieille pierre, parfois humide, elle était sans doute la même il y a 1000 ans. Il était sans doute le même il y a 1000 ans. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Il y a une forme de permanence, du temps, de constance, que je trouve absolument sublime et qui me rassure infiniment. Wow. Donc la spiritualité, je la trouve un peu là, je la trouve un peu dans les livres aussi quand même. Moi, tu sais, la littérature m'a appris à vivre, hein. Ouais. M'a appris à traverser la rue, m'a appris à dire bonjour, m'a appris à aimer, à quitter quelqu'un. La littérature m'a été toujours un modèle d'intelligibilité de la vie pour moi.
Pourtant, j'ai cette image de la personne qui lit tellement que finalement, elle se renferme sur elle-même parce que t'es dans tes pensées, t'es dans ton...
Mais justement,
moi intérieur,
je pense que j'étais tellement.
En quoi ça t'a tourné vers l'autre?
Je pense que j'étais tellement enfermé que c'était une façon pour moi d'apprendre à vivre et que ça me guidait en fait dans ma façon d'interagir avec les autres. Après, c'est une illusion hein, de croire que l'expérience de la lecture c'est une expérience seule. On l'abordait de solitude, on l'abordait un peu tout à l'heure, mais t'es quand même en train de dialoguer avec un auteur, avec un texte vivant et avec une communauté de lecteurs. Tu dialogues en fait, ça, tu dialogues aussi avec un éditeur. Dialogue avec un directeur artistique qui a mis en page le livre, tu dialogues avec un lecteur, le premier, celui qui a relu le texte, tu dialogues tout le temps.
Après toi tu dialogues surtout plus au propre, puisque derrière tu les rencontres, tu les interviews.
Mais je pense que mes interviews c'est vraiment ça, c'est la somme de tous ces dialogues que j'ai pu avoir avant, que j'ai pu avoir avec toutes celles et ceux qui ont participé à la construction d'une œuvre. Ce serait très naïf de penser qu'il n'y a toujours qu'une seule personne. C'est beaucoup plus large. Et collectif.
C'était très très bon.
Donc on a une...
Okay, ça fait partie du jeu. Hein. Les gens qui sont passionnés, le restaurant.
Salade d'orange.
Ouais, super, salade d'orange.
Allez.
Et par contre, maintenant, salade d'orange express en même temps. Oh. Toi aussi ou pas?
Allez. Vendu. 14h01.
Attends.
Dino, Augustin, c'est ce qui nous a coupé tout à l'heure. L'histoire d'amour, la rencontre amoureuse la plus improbable. Quelles en étaient les circonstances, comment ça s'est produit?
Non mais en fait la rencontre la plus improbable que j'ai pu avoir, c'est celle que je suis en train de vivre aujourd'hui, qui est l'histoire de toute ma vie en fait. C'est quelqu'un que j'ai rencontré un peu au hasard et où j'ai su immédiatement que j'avais passé un énorme moment avec lui. Je l'ai su immédiatement, instantanément, on a eu une petite histoire ensemble. Il y a 5 ans, mais il y avait quelqu'un dans sa vie. Et après, on ne s'est pas vu pendant 5 ans. J'ai été extrêmement malheureux. J'ai eu d'autres histoires, une autre grande histoire notamment. Je l'ai retrouvée.
Waouh, merveilleux. Merci de nous partager.
Bah, pour l'instant, hein, merveilleux, mais tu sais comment ça se passe.
Hein. Voilà, la vie, hein. La vie, les rencontres.
Ouais, la vie, ouais.
Ouais. Est-ce que tu es accro aux réseaux sociaux? Je t'ai trouvé quand même vachement réactif à mes messages.
Non, en fait, je le suis un peu. Hein. Je suis un peu malgré moi. Je lutte sans cesse contre ça. D'ailleurs, la vraie mesure écologique que je prends, c'est d'être moins de temps sur les écrans. En revanche, c'est vrai que pour moi, les réseaux sociaux ont toujours été des lieux de dialogue et des lieux de partage. C'est comme si je faisais partie d'une génération qui pensait encore qu'Internet, c'était le partage. Hein. Ça voulait dire ça, Internet, pour nous. Effectivement, dès qu'on me pose une question, j'essaie de répondre. J'essaie de répondre.
Bon,
enfin, beau gosse, ça dépend. Le matin au réveil, je suis bof gosse, quoi.
J'y crois pas, c'est bon. Tu disais écologiquement, tu essayes de moins consommer les écrans. C'est,
ouais, c'est
quoi
ça.
les stats écologiques, ouais, notre impact?
C'est pas bon. Hein.
Via les écrans.
C'est pas bon.
T'as 2-3 chiffres?
Non, j'ai pas 2-3 chiffres. Non, renseigne-toi, c'est pas bon. Et puis surtout, c'est une façon de justifier pour mon boulot, je prends l'avion. Ouais. Et ça, c'est vraiment dommage. Faudrait que je. Et c'est-à-dire que quand je pars avec Bibliothèque sans frontières, je peux difficilement y aller à pied. Donc c'est difficile.
C'est où?
Dans le monde entier.
Ouais.
Là, je suis parti, tu vois, cet été au Bangladesh, en Colombie, au Burundi récemment.
Et quelle est ta mission dans le...
Bah, je suis leur parrain, c'est-à-dire que mon travail, c'est un travail de médiatisation. C'est-à-dire essayer de faire connaître cette association qui est absolument magnifique, qui a 12 ans et qui a pour objet d'aider... d'aider à l'accès, à l'information, à l'éducation et à la culture dans des zones qui en sont exclues et dans des situations d'urgence. À Alors ça peut être des situations d'illettrisme dans le nord de la France, comme ça peut être les enfants des rues au Burundi, comme ça peut être dans le cadre d'un processus de paix entre les FARC et les populations locales en Colombie ou dans un camp de réfugiés au Bangladesh.
Ouais, c'est transversal, comme dit. Ouais. Ça te fait quoi quand tu prends conscience qu'aujourd'hui les trentenaires ou 25-30 ans ne lisent plus quasiment? Enfin, moi, c'est le cas de 80% de mes potes.
Alors, je ne suis pas exactement d'accord avec toi. Le problème, c'est qu'on vit dans une société d'écrit. C'est-à-dire que quand tu lis tes réseaux sociaux, tu lis. En fait, t'écris sans cesse. Alors t'écris peut-être une langue qui n'est pas la langue française qu'on trouve dans la plupart des livres, mais c'est quand même une société, un monde d'écriture et de lecture. Moi, c'est ce qui me fascine le plus. Après, l'expérience de lire un livre, on en parlait tout à l'heure, c'est pour moi une expérience de résistance totale. Et j'aimerais que la plupart des gens qui sont autour de moi, mais c'est mon métier aussi d'essayer de les convaincre, connaissent cette immense joie dissidente qui est de se poser 3 heures dans un canapé et d'aller ailleurs, en fait. Quand ton rythme cardiaque se ralentit, tu es presque quelqu'un d'autre, tu peux penser en même temps, réfléchir à d'autres choses en même temps.
J'avais
c'est
cette
un
question
moment de méditation
qui...
immense.
Voilà, j'avais cette question après la spiritualité, je vais te demander si tu méditais. Finalement, c'est une sorte de méditation. Je sais pas trop comment le formuler,
oui,
mais
c'est ça. Oui, c'est ça.
Donc,
ça l'est pour moi, de toute façon, tu pénètres quand même dans l'esprit d'autrui quand tu lis.
Ouais.
Sans cesse. Et ça te fait quand même réfléchir.
Oh, j'aimerais bien qu'on le filme parce que c'est vraiment joli ce moment.
Ça t'ouvre. Oh putain. Le mec, il dit c'est vraiment joli ce qui est en train de se passer. Ça, c'est vraiment la catastrophe en interview. Je me dis attention, hop, ah, c'est un grand moment là. Ah, c'est super. Non, au secours, ne commande pas. Je t'en supplie, Matt. Ne commande pas ta propre interview.
Ouais. Ouais, sauf que si on avait l'image, eh ben, il n'y aurait pas besoin de commenter, Augustin. Hein? Et c'est à cause de qui? C'est à cause de Canal. Voilà.
Non, mais c'est pas ça, mais c'est que c'est un métier. Déjà, prendre du son, c'est un métier. Si tu vois, là, tes auditeurs, ça va être la catastrophe avec le nombre de bus qui est passé à côté de nous. Mais surtout, la télévision, c'est un métier. Et moi, je défends aussi bec et ongle, y compris à la radio, où on essaye de tout filmer aujourd'hui. Moi, j'aime que ma radio ne soit pas filmée. Je défends justement les métiers de technicien, de caméraman. C'est un travail. On s'improvise pas à filmer quelqu'un. Alors plus la personne vieillit, en plus c'est compliqué de le filmer, si tu vois ce que je veux dire.
Je suis pas d'accord. Je pense que tu... je te connais pas, mais que tu vieillis très bien, si je puis me permettre.
Je pense que t'es vieux. Je croyais que t'allais dire ça. Je suis pas d'accord, je trouve que t'es vieux. Ouais, il y a Mia qui me parle là.
Parle-nous de Jean-François un petit peu, sur une note un peu... Moi, j'espère pas trop triste, puisque tu m'as dit que tu l'avais perdu il y a 3 mois, c'est assez frais.
Ouais, c'est assez frais. J'ai eu un chien pendant 18 ans qui s'appelait Jean-François, qui était mon meilleur ami.
Waouh, 18 ans, incroyable.
18 ans, que j'ai eu quand il avait 3 mois, qui a accompagné ma vie. Il m'a permis de...
Bah,
de...
Tu l'as eu à 22 ans.
Ouais, de passer... Wow. Après une rupture, je l'ai gagné au casino. Enfin non, j'ai gagné du fric au casino et j'allais m'acheter un chien. Et moi, je viens d'une famille où on a été élevé par des chiens, tu sais sans doute... Enfin, avec des chiens, c'est le mec.
Tu jouais quoi au casino? Tu jouais à quoi?
Oh bah là, ce jour-là, pour gagner ce que j'ai gagné, je devais jouer à mon avis aux cartes. Hein.
Blackjack?
Ouais, poker. Non, au poker, je crois. Ouais.
T'es sorti, tu t'es dit, j'ai tant, je vais acheter un chien.
Mais
il
faut savoir qu'on a une maison de campagne qui est à côté de Vichy, en Auvergne. Mm. Et Vichy est une ville d'eau et comme tu le sais, une ville de casino.
Ouais. Mais ça devait trotter en toi depuis un moment déjà. T'es hier, je vais prendre un chien, j'y vais, je me lance.
Non, c'est pas vrai. Je pense surtout que j'ai gagné une somme d'argent qui était tellement grande qu'à l'époque, je savais pas quoi en faire parce que j'étais trop jeune. Et donc, du coup, je me suis acheté un chien parce que je trouvais ça cool d'avoir un chien. Moi, j'avais grandi avec des chiens et puis je veux dire, je l'ai pas regretté. C'est le plus bel achat que j'ai fait de ma vie.
Waouh. T'as pas ce côté un peu écureuil de te dire, tiens, j'ai de l'oseille, je la garde de côté? Je t'ai dit, au contraire.
Mais j'étais déjà dit que j'étais pas cet auvergnat là.
Ouais, mais bon.
Non, pas du tout. Voilà, je suis nul. Moi, je défends tout ce que j'aime.
Et
ce que
j'aime. Pourquoi l'avoir appelé Jean-François? C'est quand même exceptionnel.
En fait, j'avais une amie dont la chatte s'appelait Jean-François. Quand je dis chatte, on s'entend, hein, son félin. Et elle était morte auparavant. Et du coup, on a opéré une métempsychose. Alors, peut-être que tu le sais, une métempsychose, c'est justement une espèce de transfert d'âme. On a essayé de transférer ensemble l'âme dans une.
Et c'est ma sœur qui est barrée.
J'avais 22 ans. Et ça, on y est parvenu puisque Jean-François immédiatement
s'est réincarné.
Il ne s'appelait plus Ulcar comme il devait s'appeler, mais Jean-François. Bah, Jean-François, mais je l'appelais Jean-France ou Jeff quand je l'appelle.
Extraordinaire. Qu'est-ce qui t'a appris sur toi, ce chien?
Que j'étais constant, que j'étais curieux. Il m'a tout appris en réalité. Tu sais, quand on passe, mais tu le sais avec Mia, quand tu passes ta vie avec un animal, tout tous les matins de ta vie, c'est le plus beau jour de sa vie. Et si tu réfléchis bien, c'est le plus beau jour de la tienne de vie. Parce que tu es quand même dans un échange extraordinaire avec un être qui... Il y a des dialogues qui s'instaurent, une confiance, une amitié. Moi, j'ai compris ce que c'était que l'amitié, justement, aussi, avec lui. C'est fort, des moments où ça va pas, et là. Ouais. Tu sais, j'avais un chien très particulier, puisque quand j'étais triste... Ce qui arrive assez régulièrement, parce que quand je lis ou quand je suis face à une œuvre d'art, je suis vraiment poreux. Donc je me mets à pleurer. Lui, il montait sur le lit et il me léchait mes larmes.
Incroyable. Comment tu faisais avec une vie à 12 000 à l'heure pour la coordonner avec lui?
Non, mais je prenais du temps pour mon chien.
Mais t'avais quelqu'un la journée extrême. Qui te...
Non.
Oui, il allait à Canal, il est avec toi partout?
Ouais, je l'ai emmené beaucoup. Et puis sinon, moi, le matin, je me lève très tôt, donc je prenais le temps pour le promener. Je rentrais à midi pour le promener aussi. Et puis c'est les week-ends, moi je les passe chez moi, hein, donc à lire, donc on était ensemble vraiment quoi.
J'essaye en ce moment de me lever plus tôt. Je suis en lutte permanente, je snooze, je me rendors, je fais genre, je rentre dans mes pensées, mais pas du tout. Je dors profondément une heure de plus. Comment tu fais? Clairement, c'est quoi ton truc qui te sort du lit quoi?
J'aime pas trop dormir. Barbara avait cette phrase incroyable sur les insomnies où elle disait en fait mourir et dormir. C'est pas du tout la même chose, mais ça l'est un peu quand même. Donc j'aime pas trop dormir. J'ai l'impression que je vais jamais me réveiller.
Ah oui, à ce moment-là. Là, c'est...
Je suis toujours heureux quand je me réveille. Mais d'ailleurs, les gens qui ont partagé ma vie te le diront, si tu fais ton enquête, te le diront tous. C'est ma plus grande qualité. Quand je me réveille le matin, je suis toujours de bonne humeur. En fait, c'est une vie, c'est un monde qui se lève.
Bravo. Quel est le meilleur conseil qu'on ait pu te donner?
Le plus beau conseil qu'on m'ait donné...
On arrive à la fin, je te rassure.
Dans ma vie... Un jour, j'ai une amie qui m'a dit, ça me vient là comme ça, qui m'a dit... Toi, comment on a un caractère? Quand on a un caractère, on finit toujours par te le reprocher. Bon, le fait de savoir ça, ça m'a beaucoup aidé.
Tu t'es adouci?
Non, mais j'ai surtout eu beaucoup plus d'indulgence. Pour les autres, et pour moi-même aussi. J'ai pris conscience aussi que je pouvais saouler, épuiser les autres, et qu'il y avait un retour du bâton, un retour du boomerang qui pouvait m'arriver à tout moment. Et ça a été une belle excuse pour moi. Donc c'est un bon conseil.
Quelle est ta citation préférée, si tu en avais une qui revient régulièrement, qui t'inspire et que tu devais transmettre?
Une citation de La Fontaine. Dans sa fable qui s'appelle « Les deux amis », c'est une citation sur l'amitié, où il écrit qu'un ami véritable est une douce chose. Il cherche vos besoins au fond de votre cœur, il vous épargne la pudeur de les lui découvrir vous-même. Un songe, un rien, tout lui fait peur quand il s'agit de ce qu'il aime.
Waouh. Ah oui,
Ce qu'il faut savoir, amis auditeurs, c'est que Max, en face de moi, a un sweatshirt Cocorico. Ce qui, tout de suite, si tu veux, rend la situation beaucoup moins sexy.
Et s'apprête
et émouvant.
À boire.
Vous savez, à boire son jus d'orange de façon éhontément dégueulasse en face de moi.
Moi, ce qui me surprend, c'est que tu termines même pas tes oranges, Augustin. Qu'est-ce qui se passe?
Mais t'as remarqué que j'ai une préférence pour le pain, ce qui est un drame.
Ah oui.
Ouais, je me suis fait tout le pain.
Tu me disais que tu t'étais mis au sport, justement, tu fais quoi?
En fait, tout à l'heure, quand tu me disais il n'y a plus de pain, en fait, c'était moi qui l'avais bouffé en SD. Je fais du sport, ouais, je fais du sport, j'essaie de faire du sport, non, mais parce que j'en ai besoin. Hein. Le problème, c'est que je suis hyper actif, comme tu as pu t'en rendre compte, et je suis très très anxieux. Donc le sport me permet de me détendre.
Et tu fais quoi?
Je cours, je fais du rameur, et je pousse des briques.
Intéressant. Je suis charpentier. D'accord. J'ai adoré ta citation, Lucien.
Tant mieux, sur l'amitié.
Je la remettrai en boucle.
En exergue. En boucle. Ouais.
Sur ce que tu as pu saisir de notre échange, qu'est-ce que tu as envie de me conseiller? Hormis le fait de ne pas commenter.
Mais tu sais, moi j'aime pas trop. Non, mais j'aime pas. Ouais, ça, ouais. Ça, tu me fais la promesse de ne plus jamais le faire. S'il y a une leçon que tu dois retenir, c'est vraiment celle-là. Ne commente pas. Ne sois pas dans l'autocitation. La question que j'ai envie de te poser, c'est ça?
Non. Oui, si tu veux.
Le conseil. Non, le conseil.
Moi, j'avais envie de commencer par, voilà, sur suite à l'échange qu'on a eu.
J'aime pas trop.
Non, mais ce que tu ressens, ce qui ressort, ce qui t'inspire en tout cas.
Ce qui m'inspire. Bah non, mais je t'ai bien aimé, je t'ai trouvé curieux.
Merveilleux. Alors, justement, on arrive à la question bonus. Nos rôles s'échangent.
Dernière question.
Oh merde, il y a une question bonus.
C'est ouvert, c'est toi qui la pose.
C'était pas nécessaire la question bonus. C'est moi qui la pose.
Ouais, c'est toi qui a carte libre.
J'ai carte libre ou carte blanche, même on peut le dire.
On peut le dire.
Ma question, elle va être très simple. Qu'est-ce qui te nourrit ?
Wow. Eh bien, déjà, on ne me l'a jamais posé, donc ça me fait très plaisir. Ce qui me nourrit, ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure quand tu lisais l'après-midi pendant 3 heures et que tu t'isolais loin de ton téléphone. Derrière, j'avais envie de te dire, est-ce que pour toi, c'est le synonyme d'une journée réussie à la fin de la journée, d'avoir eu ce moment pour toi ? Ben, moi, c'est d'avoir des moments pour moi, finalement, mais des moments cruciaux et différents d'une journée différent dans une même journée. C'est-à-dire que le matin, je vais avoir envie d'écrire, de produire, de créer. Début d'après-midi, je vais avoir envie d'appliquer, de faire des choses en ligne, un peu plus moins créatif, si tu veux, moins besoin d'introspection et de réflexion. Et fin d'après-midi, je vais avoir besoin de mon sport comme un équilibre. Et fin de journée, je vais avoir besoin de m'évader, que ça soit en voyage, parce que je voyage énormément, ou en montant une interview comme on est en train de la faire ensemble, qui va me permettre de repartir dans mes pensées et de me dire mais quelle chance d'avoir vécu un moment suspendu comme
c'était
ça.
C'était une chance de vivre un moment comme ça avec toi en tout cas.
Donc voilà, si tu veux, moi ce qui me nourrit c'est plusieurs piliers qui vont être la création le matin, on va dire un peu plus l'application dans l'après-midi, la dépense physique, d'ailleurs je me suis fait le reproche de ne pas être venu en Vélib.
Et l'évasion.
Et l'évasion, le voyage. Dans un film, dans un montage, dans... peu importe. Et là, je me couche serein.
Mais c'est bien.
Merci, Augustin.
C'est moi qui te remercie, Max.
J'espère que l'amour durera le plus longtemps possible.
J'espère aussi.
Allez, ciao, ciao.
Ciao.
Ça y est, Mimi. On en est à la fin de cette interview. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes régalé autant que nous. On a apprécié la blanquette. Autant qu'on a pu rigoler à certains moments et autant qu'il a pu m'inspirer à d'autres. Encore une fois... Si le contenu vous a plu, vous avez un lien juste en dessous pour vous inscrire et recevoir les prochaines. Vous pouvez également recevoir le contenu Maximilia sur lequel on parle de rencontres amoureuses de manière plus générale. Ce qui compte énormément pour moi, ce qui me fait très plaisir, c'est d'avoir des retours, des commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé, en quoi ça vous a peut-être éclairé. Mimi, ça t'a éclairé toi ? J'ai pas l'impression. Je crois qu'elle se caille plus qu'autre chose. Et ce qui m'aide merveilleusement, c'est de noter le podcast sur la plateforme où vous l'écoutez. Si c'est Apple Podcast, de mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Si c'est sur SoundCloud, de mettre un like. Si c'est sur YouTube, que sais-je. Voilà, de mettre une note, ça permet d'être mieux référencé. Ça aide énormément. J'espère que tout va bien pour vous et que vous faites de merveilleuses rencontres parce que, à mon sens, c'est le sel de la vie. Voilà, je vous embrasse et à très bientôt. Ciao. Mimi, elle n'est pas très branchée. Au revoir, Mimi.